Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi.
Le premier président de la Cour militaire du Nord Kivu appelle les militaires de sa juridiction à l'observance des lois du pays et à la discipline. L'appel lancé au cours d'une parade militaire hier à Goma est consécutif à la montée de la criminalité dans la ville. Criminalité dont les auteurs seraient en majorité des hommes en tenue militaire. La coordination des comités des élèves de Bénéville plaide pour le transfert des élèves dans d'autres écoles. Il s'agit de ceux de 5 écoles primaires du quartier Sayo, commune de Moulekera. Toutes les activités scolaires y sont paralysées depuis 2 mois à la suite de la multiplication des attaques des ADF dans ce quartier. Maître Laurent Onyemba est l'invité de Radio Okapi ce matin. L'avocat de la famille Okende va parler de la nouvelle plainte déposée au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par la famille de feu Chérubin Okende. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, le premier président de la Cour militaire met en garde et appelle les militaires de sa juridiction à l'observance des lois du pays et à la discipline. C'était au cours d'une parade judiciaire hier au palais de justice militaire. Cet appel est consécutif à la montée de la criminalité dans la ville de Goma, dont les auteurs seraient pour la plupart des hommes en tenue militaire. Il a insisté sur le fait que tout militaire en divagation, sans ordre de mission, portant l'arme et en tenue des FRDC, qui tombera dans les griffes de la police militaire, sera sévèrement châtié et subira la rigueur de la loi. Les propos du colonel magistrat Kabea Anouben ont été recueillis par Gabriel Wamenia.
Celui qui abandonne son poste, qui se promène comme une chèvre, comme un civil avec l'arme et la tenue, sans autorisation de déplacement. Les patrouilleurs vont t'arrêter, que ce soit pendant la journée ou la nuit. On va t'arrêter. Quand tu seras devant nous, tu n'as pas non seulement abandonné ton poste, mais aussi tu as violé les consignes devant les juges qui me suivent ici. Tu seras sévèrement puni. Vous le savez, puisque vous suivez les audiences dans les différents. Attention que cela ne t'arrive pas. Lorsque on arrête les indisciplinés qui insécurisent la population, notre intervention est la phase finale, la procédure judiciaire. Comme nous sommes les juges, notre procédure judiciaire n'est pas d'enquêter. Nous attendons les dossiers complets après l'instruction. Là, nous sortons le gris. Si tu veux te promener, promène-toi sans tenue de l'État.
Rappelons que des hommes en tenue des FRDC sont jugés en procédure de flagrance au niveau des différentes juridictions militaires depuis la montée de la criminalité dans la ville de Goma. Et pour tenter de mettre fin à ce regain de criminalité à Goma, 4 coordinations de la société civile exigent la démilitarisation de la région. Ces coordinations de la société civile de Goma et des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo l'ont dit lors d'un point de presse lundi à Munigi dans le territoire de Nyiragongo. Ces acteurs dénonce l'activisme de certains éléments des forces nationales de sécurité et des groupes armés dans la ville de Goma et ses environs. Ils condamnent aussi les autres actes criminels dans la zone qu'ils disent profiter à l'ennemi. Enfin, ils demandent le renvoi de tous les militaires vers les lignes de front. Mambo Kawaya de la société civile de Nyiragongo est dans ses propos recueillis par Bernard Danyangi.
Nous encourageons les efforts fournis dans le démantèlement des réseaux criminels et des personnes chargées de recrutement des éléments du 1-23 dans la ville de Goma et ses environs, même dans les camps des déplacés. Saluons grandement l'arrestation suivie de la condamnation du militaire ayant récemment tiré à bout portant sur des gens au niveau du quartier Majengo, l'arrestation du Muzalendo qui avait ôté la vie au chauffeur du CICR, mais aussi l'arrestation d'une femme qui a été au service de l'ennemi en trafiquant des enfants en échange d'importantes sommes d'argent. Ainsi, face à cette situation préooccupante, suivant les recommandations ci-après, aux autorités compétentes, démilitariser la ville de Goma en envoyant tous les militaires sur les lignes de front, déployer bataillons de PEM dans la ville et à toutes les entrées de la ville pour empêcher toute entrée des armes dans la ville. Mettre à contribution la technologie moderne pour renforcer la surveillance et la prévention des criminalités dans les zones à risque. Identifier tous les militaires dispo. Ne plus permettre la circulation des Wazalendo armés dans la ville pour éviter la confusion créée par des bandits armés qui opèrent dans la ville.
En Ituri, certains habitants pris en otage depuis environ 2 semaines par la force d'autodéfense Zaïre ont été libérés grâce à l'intervention des casques bleus du contingent bangladais de la MONUSCO à Bayo-O dans le territoire de Djougou, ce qui a permis de baisser la tension qui montait dans la région entre deux communautés, précise la mission onusienne. Ces anciens otages, dont la santé s'était détériorée dans la brousse, ont bénéficié des soins gratuits administrés par ces soldats de la paix avant de retourner dans leurs familles respectives. Isaac Raymond.
5 personnes composées de 2 hommes, une femme et 2 enfants, tous membres de la communauté Lendu, ont été kidnappés le 5 avril dernier au cours d'une attaque de la milice Zaïre à Diamba dans les territoires de Djougou, ce qui avait suscité une tension communautaire dans la zone. Des miliciens de la Codeco ont tenté plusieurs fois de libérer par force ces otages, mais sans succès. Pour éviter l'escalade des violences, les forces de la MONUSCO ont organisé des patrouilles diurnes et nocturnes dans la région. Ils ont également initié les dialogues en impliquant les leaders des 2 communautés pour la résolution pacifique de ces problèmes, indiquent des sources de la MONUSCO. Après environ 1 semaine de discussions, ces otages ont été libérés. Ces derniers ont bénéficié des soins gratuits administrés par ces contingents. Ils ont ensuite été acheminés dans leurs entités respectives grâce au soutien logistique de la MONUSCO. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Congo central, le coordonnateur de l'ONG de défense des droits de l'homme, Programme pour la formation de défense en droits humains, dénonce la persécution dont ses membres ainsi que les lanceurs d'alerte sont victimes de la part de l'administrateur du territoire de Luozi. Selon Serge Mikangamani, cette autorité abuse de son pouvoir et de sa casquette d'interfédéral de l'UDPS pour notamment multiplier les taxes et persécuter les activistes des droits de l'homme. Il invite les autorités au niveau provincial et national à diligenter une enquête à Luozi pour mettre fin à cette situation qui, selon lui, crée un malaise au sein de la communauté. Toutes ces allégations ont été rejetées par l'incriminé. Les détails avec Nana Plurich Mambou.
L'administrateur du territoire de Luozi se croit tout permis. Il crée les taxes illégales et interdit les émissions d'éveil patriotique, comme l'affirme Serge Mikangamani, coordonnateur de l'ONG de défense des droits de l'homme, PFDDH, à Luozi.
Trop de cas de tracasserie. Donc ce n'est pas possible avec cet administrateur. Il crée des taxes qui ne sont même pas conformes et l'argent n'entre pas dans les trésors publics. Il a des conflits de terres. Il a interdit toutes les émissions de veille de conscience.
Pour l'incriminé, toutes ces allégations sont mensongères. L'administrateur du territoire de Luozi indique que tous ces détracteurs sont les ennemis de la bonne gestion de la chose publique dont il fait montre depuis son arrivée à la tête de cette entité territoriale. Alfred Loza.
Connaissant Luozi, il y a un problème de mentalité. Quand vous allez à la radio, au lieu de parler d'un sujet bien précis, et vous allez commencer à attaquer tout le monde parce que vous êtes des droits de l'homme. Non, la liberté d'expression, oui, mais pas libertinage. Nous avons besoin de la paix. Tout ce qu'ils ont fomenté contre ma personne est fausse.
Selon Serge Mikangamani, à Luozi, la vraie société civile censée veiller sur les intérêts de la communauté, laquelle devrait dénoncer ses dérives, n'existe plus. L'équipe dirigeante actuelle de cette société civile et même l'actuel conseil de la jeunesse de ces coins ne roulent que pour les comptes de l'administrateur des territoires qui les a lui-même fabriqués. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Toutes les activités scolaires sont paralysées depuis 2 mois dans 5 écoles primaires du quartier Sayo de la commune de Moulekera. C'est à la suite de la multiplication des attaques des ADF dans ce quartier situé à l'ouest de la ville de Beni au nord Kivu. Les élèves de ces écoles n'ont plus accès à leur salle de classe et n'ont pas pu passer les examens du 2e trimestre. La coordination des comités des élèves de Beni plaide auprès des autorités compétentes pour le transfert de ces élèves dans d'autres écoles de la ville pour leur éviter une année blanche. Son président, Jano Kangwana, le dit au micro de Sadiki Aboubakar.
Et les affaires ne sont pas en train d'étudier dans de bonnes conditions. Quand on écoute, on a tillé à Sayo. Nous autres, nous sommes déstabilisés. Et quand on fait détruire un pays, on commence par son éducation. C'est pourquoi nous appelons les autorités de nous apporter la sécurité. Les autorités doivent nous aider à prendre ces affaires, les orienter dans d'autres écoles, au lieu de chômer, soit que ça soit une année blanche. Attaquez aux autorités, vous qui êtes en train de nous suivre à pareil moment, nous vous appelons vraiment de faire cela vite, car l'année est presque à la fin. Ça sera une bonne occasion pour équiper. récupérer les AFA qui n'ont pas terminé les programmes. Je suis en train d'appeler aussi l'armée congolaise de faire bien son travail, de sécuriser cette population. On est en train de rester orphelins, les autres sont déplacés aujourd'hui à la MONUSCO, de faire monter ces appareils pour retrouver là où ces ADF sont en train de se cacher. Il suffit tout simplement de l'exterminer.
Nous n'avons pas encore réussi à avoir les autorités scolaires et politico-administratives pour leur réaction. À Kinshasa, début hier, d'un atelier de renforcement des capacités des cadres de la police nationale congolaise sur l'évaluation de l'âge de l'enfant. Une activité organisée par la police nationale en collaboration avec la section protection de l'enfant de la MONUSCO et l'UNICEF avec l'appui de la coordination du groupe technique de travail conjoint. Néné Moussavouli, commissaire supérieur principal, chef de département de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles, ainsi que point focal genre de la police, explique ici l'importance et les objectifs de la dite formation. Néné Moussavouli est au micro de Greta Lulendo.
Nous avons réfléchi et heureusement avec les partenaires qui ont accepté de nous accompagner pour faire une formation sur apprendre aux usagers, c'est-à-dire aux OPJ, comment pouvoir évaluer l'âge de l'enfant. L'objectif, au fait, c'est pour que ces gens-là qui ont l'habitude de fourber, donc ceux qui ont habitué à la fourberie, de ne pouvoir plus attraper l'OPJ. Nous rencontrons des difficultés parce que des fois, ce sont des grandes personnes qui ont commis des actes de viol quand ils se trouvent devant nous, devant l'OPJ, ils méconnaissent leur âge. Et là, ils font une tromperie pour se déclarer mineurs. Nous avons invité des spécialistes qui vont, chacun à tour de rôle, prendre le temps avec les officiers, les cadres. C'est vraiment une formation. Avec cet objectif d'avoir des officiers qui sont formés, qui ont la notion pour évaluer l'âge de l'enfant. Par le passé, le gouvernement congolais était listé par rapport au recrutement d'enfants. Par le passé, j'ai dit bien, il n'y a plus de recrutement d'enfants aujourd'hui. Zéro enfant dans l'armée.
Entre 35 000 et 50 000 enfants en situation de la rue ont été répertoriés à Kinshasa ces 10 dernières années par le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue Régère. Ces chiffres ont été rendus publics le week-end dernier par le professeur Joseph Lino Pungi, président du conseil d'administration du Régère, dans le cadre de la Journée internationale des enfants de la rue le 12 avril. Le thème de cette année est appartenance. La double problématique de la prise en charge et de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de la rue a été évoquée au cours de cette journée. On écoute à ce sujet le professeur Joseph Lino Pungi au micro de Jean-Pierre Elali Koko.
Imaginons que demain, chacun de ces enfants fasse dans la rue au moins 2 enfants. Donc, on aurait en une génération 100 000 individus dans la rue. Ces jeunes qui sont dans nos rues, dans l'oisivité, dans la mendicité, la rapine et toute forme de délinquance urbaine. On le vit déjà. Chegué, Kuluna, nous envahissent au point où on commence même à parler de la chegéisation. En revanche, imaginons cette même masse, 100 000 personnes ou bien plus, en train de travailler dans les différents secteurs vitaux de notre ville, de notre pays. Agriculture, construction, entretien de routes, etc. Nous sommes en train de gaspiller des ressources humaines. Cela dit, aujourd'hui, le REGER se dispose à toute forme de partenariat visant à promouvoir une protection collective de l'enfant congolais.
Diverses activités des enfants ont été organisées pour cette occasion en marge de cette journée internationale des enfants de la rue, à savoir les scénettes, danses, témoignages, poèmes, expositions des œuvres d'art en vue de promouvoir la protection et les droits des enfants de la rue. Recueil à noter des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies sur la République démocratique du Congo de 1960 à 2023, c'est le livre de Julien Paluku, ministre de l'Industrie, dont le vernissage a eu lieu ce mardi, donc hier, à Kinshasa, par son collègue des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Dans cet ouvrage de plus de 800 pages, l'ancien gouverneur du Nord Kivu dit faire une analyse scientifique et critique sur la présence de l'ONU en RDC, cela en se posant notamment la question de savoir si le gouvernement congolais a capitalisé la présence de celle-ci sur son sol à travers les différentes résolutions prises en sa faveur. On écoute Julien Paluku au micro de Grâce Hamzati.
L'une des problématiques pouvant être abordée sur base de ces recueils est l'évaluation de la portée politique, philosophique, économique, ces critères d'autant de résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Plus clairement, 156 résolutions de l'Assemblée Générale et du Conseil de sécurité, doublées d'une présence de plus de 25 ans des Nations Unies, en 73 ans, ont-elles permis à la RDC de résoudre les problèmes d'ordre politique, économique, sécuritaire auxquels elle se rapporte? C'est une question que tout le monde se pose. Mais la question peut aussi être posée autrement en ces termes. La RDC a-t-elle bien joué sa partition afin de rentabiliser autant de résolutions prises à son sujet et à sa faveur? Je me rappelle qu'il y a des résolutions qui nous demandaient de réformer notre secteur de sécurité. Est-ce que ce sont les Nations Unies qui devaient nous aider à réformer notre secteur de sécurité ou devrions-nous nous appuyer sur sa présence pour la réformer? Et donc, la question est posée pour savoir, on peut bien blâmer la présence des Nations Unies, mais n'est-il pas aussi l'état de nous blâmer pour n'avoir rien fait de sa présence et profiter de son budget d'un milliard de dollars? Imaginez-nous un seul instant où depuis 1960, il n'y a pas et des Nations Unies et des systèmes des Nations Unies présents au Congo, ce que serait devenu la République. Je crois qu'on aurait passé à la somalisation de la République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
Le président de la Zambie a lancé un appel à l'aide mardi, assurant que son pays avait besoin d'une assistance vitale de plus de 900 millions de dollars pour faire face à la pire sécheresse de son histoire. Dans un discours télévisé, il a expliqué que près de la moitié des 20 millions d'habitants de ce pays avaient été touchés par cette sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Niño. Plus de 6 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence, a-t-il ajouté. Le secteur agricole est dévasté et récolte et pâturage étant affecté. Mais la Zambie, qui a déclaré en février la sécheresse catastrophe nationale, n'a que 51 des 940 millions nécessaires pour y faire face.
L'invité.
Une nouvelle plainte déposée au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par la famille de feu Chérubin Okende. Selon l'avocat de cette famille, cette plainte a pour d'éléments nouveaux l'audio du ministre honoraire Moderon Simba, dont la justice doit se saisir pour établir la vérité sur la mort de l'ancien ministre des Transports. Pour en parler, Radio Okapi reçoit l'avocat de la famille du défunt, maître Laurent Onyemba, s'entretient avec Jeff Ngoy.
Laurent Onyemba, bonjour.
Bonjour.
Vous avez déposé une plainte dans l'affaire Chérubin. Qu'est-ce qu'il y a comme élément nouveau? Contre qui?
Bon, je remercie énormément la famille Chérubin Okende, la veuve et le papa du défunt m'ont chargé de déposer une nouvelle plainte. Comme vous le savez, nous avons déposé la première plainte au parquet des grandes instances de Gombe et que, au terme d'une enquête, le parquet a abouti à une conclusion controversée en affirmant que M. Chérubin Okende s'est auto-infligé. Au regard des éléments nouveaux que nous avons suivis dans l'audio de M. Moderon Simba, qui devient aujourd'hui viral dans les réseaux sociaux, il est relaté minutieusement les mécanismes de la mort de l'honorable Chérubin Okende, construisant ainsi une nouvelle thèse qui parachève ou qui invalide complètement la conclusion du parquet. De ce fait, la famille a estimé que nous avons la responsabilité de ressaisir le parquet. Et cette fois-là, ce n'est pas le parquet près le tribunal de grande instance. Nous avons saisi le parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe parce que nous avons estimé que ce sont des magistrats chevronnés et qu'ils ont la capacité d'affronter la vérité sans nécessairement se nourrir de la thèse d'un suicide. Parce que pour la famille, s'il y a eu suicide, ça doit être absolument un suicide assisté. Au regard de l'audio de M. Moderon Simba qui est poursuivi aujourd'hui pour faux bruit, alors qu'au lieu d'aller dans le sens de faux bruit, il y a lieu de crever la vérité, crever l'abcès pour finalement rencontrer et rendre justice à la famille de M. Okende.
Est-ce que vous acquiescez le rapport du parquet près du tribunal de grande instance, puisqu'il attend toujours vos annotations sur le rapport qui vous a été transmis?
Nous avons reçu les copies du dossier par la procédure de l'EVPI. Et vous savez que nous sommes avocats. Nous sommes donc régis par une législation interne qui veut que les avocats, pour réagir dans ces circonstances, obtiennent l'autorisation de leurs barreaux respectifs. Dans les collectifs, nous avons deux avocats du barreau de Matete et deux avocats du barreau de Gombe. J'ai cité maintenant Semanonga et maître Blaise Lunda. À ce jour, nous avons adressé des lettres à nos barreaux respectifs et que nous continuons à attendre. Malheureusement, ça a pris un peu de temps, mais les barreaux ont son rythme, les bâtonniers ont leur rythme de travail. Donc, nous sommes confiants que nous aurons ces autorisations.
L'autorisation, c'est pour vous exprimer, puisque là, déjà, vous vous exprimez.
Non, mais ici, c'est par rapport à l'élément nouveau. Ici, l'autorisation, c'est justement pour rencontrer et critiquer la décision du parquet. C'est-à-dire que nous sommes sous serment de respecter les décisions de la justice. Mais ici, nous avons besoin plutôt de rencontrer les préoccupations pour démontrer les infirmités dans l'architecture de la réflexion du parquet au regard des pièces qui sont en notre possession. Et pour ça, il faut absolument l'autorisation du bâtonnier. Ici, je vous explique les circonstances de notre nouvelle plainte, mais qui échappe justement au champ de la stricte analyse de la plainte et de la conclusion du parquet dans les dossiers que nous avons déposés avant. Il faut aussi rappeler que le parquet lui-même, avant notre plainte, avait ouvert un dossier judiciaire. Et donc, il s'agit de cela.
Moderon Simba, nous l'avons suivi devant la Cour de cassation. Il réfute l'audio que vous dites, ça constitue un élément nouveau au dossier que vous avez introduit. Mais lui-même, Moderon, ne reconnaît pas cet audio-là.
Non, il n'y a que deux démarches à comprendre. Si Moderon Simba est acquitté du fait que cet audio n'est pas authentique, nous allons en tirer toutes les conséquences. Mais si vous répétez les propos de Moderon, pourquoi vous ne répétez pas les propos du procureur qui l'accuse, qui l'a dit, et que le procureur soutient que l'audio est de Moderon et qu'il n'a jamais eu un montage? Vous voulez nous dire que le procureur de la République, à ce niveau, près la Cour de cassation, va devoir déférer un ministre honoraire et un député en fonction devant la Cour de cassation sans fondamentalement se rassurer que l'audio est cohérent?
Où en êtes-vous avec la saisine de la justice internationale puisque la justice congolaise ne semble pas vous satisfaire?
Bon, là, il faut poser la question à mes confrères qui sont en Belgique et à Paris. Moi, je suis avocat au Congo et j'opère devant la juridiction congolaise. Le jour où je vais aller devant la juridiction internationale, j'ai répondu à votre question.
Merci Laurent Onyemba.
Merci.
C'est par donc ici cet entretien entre Maître Laurent Onyemba, avocat de la famille Okende, et Jeff Ngoy que prend fin ce journal. Journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi sous la coordination de Jude Bilanda sous la supervision de Alain Irung. La mise en onde a été assurée par Mimi Kindo.